RFI 8h30 à Paris, il est 7h30 en temps universel. Paul Lonsin-Spinelli à la une de votre édition. Ces habitants de Bukavu dans l'est de la RDC qui sortent de nouveau de chez eux.
Alors que le M23 soutenu par le Rwanda s'est emparé de la capitale provinciale du Sud Kivu dimanche, la situation reste relativement calme, pas de combat majeur observé. Un témoignage dans une poignée de secondes d'un acteur de la société civile de Bukavu. Une étape électorale qui ouvre la voie à l'application de la nouvelle constitution au Togo. Le parti du président Fornia Singbe a largement remporté les élections sénatoriales. Il reste encore plusieurs étapes avant le changement de régime voulu par le président. On y revient avec notre correspondant. Et puis c'est l'illustration d'un profond mal-être étudiant au Sénégal. Un jeune Sénégalais s'est suicidé la semaine dernière. Il était en master à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, ce qui avait provoqué une vague d'émoi dans tout le pays. Des habitants, parfois restés enfermés chez eux plusieurs jours, qui ressortent désormais dans les rues de Bukavu. Contrairement à Goma, la capitale provinciale du Sud Kivu dans l'est de la RDC, elle a globalement été épargnée par les combats lors de l'entrée dans la ville du M23 et des troupes rwandaises. C'était dimanche. Hier, la situation était toujours relativement calme. Josué Kayeye est un acteur de la société civile de Bukavu. Il a observé ce retour progressif à la normale.
Je suis personnellement soulagé que les choses se soient passées comme telles et qu'il n'y ait pas eu ce genre de dérapage. Pour l'instant, nous pouvons dire que le sentiment est partagé parce que, avec leur entrée, on a eu à stabiliser la confusion qui régnait déjà depuis jeudi dans la ville. Qu'il y avait déjà une cacophonie où tout le monde pillait, tout le monde faisait tout ce qu'il pouvait faire. Et tout ce qui avait des armes, les civils ou les autres malfrats qui avaient des armes faisaient la loi. Donc, ils ont restauré un tout petit peu l'ordre. En tout cas, cette peur n'est plus parce qu'on craignait plutôt les affrontements. Donc, la peur qui peut exister, c'est plutôt une peur relative à ce qui pourra suivre. Donc, on reste encore très observateur. En tout cas, les sentiments sont partagés pour l'instant.
Josué Kayeye, joint par Alexandra Branjon. Au Togo, le Sénat se met aux couleurs du parti présidentiel. L'Union pour la République, formation de Fornia Singbe, a remporté 34 des 41 sièges mis en jeu lors du scrutin du 15 février. Pour que la Chambre soit au complet, désormais, le président de la République doit encore nommer le dernier tiers, c'est-à-dire les 20 sénateurs restants. Une nouvelle étape franchie dans l'application de la nouvelle constitution. Peter Sassou Dogbe, notre correspondant, vous explique les prochains stades à venir vers le changement de régime.
La nouvelle constitution est en application depuis le 6 mai 2024 pour une période transitoire de 12 mois. Les élections sénatoriales de ce week-end marquent une étape clé dans la mise en place des nouvelles institutions de la 5e République. Dans un délai de 4 à 8 jours, après épuisement des recours, la Cour constitutionnelle publiera les résultats définitifs. Ensuite, le président de la République appliquera l'article 95 de la nouvelle constitution pour nommer les 20 sénateurs restants. Une fois le Sénat au complet, il devra se réunir le deuxième jeudi suivant, la proclamation des résultats définitifs. Un règlement intérieur doit être adopté, un bureau exécutif constitué. Le Sénat ainsi formé se réunira en congrès avec l'Assemblée nationale pour élire le président de la République et permettre la prise de fonction du président du Conseil des ministres. Fornia Singbe, président de l'Union pour la République, majoritaire à l'Assemblée nationale, avec 108 députés sur 113, deviendra donc le président du Conseil des ministres. Peter Sassou Dogbe Lomé, RFI.
En Tunisie, Kais Saied, lui, est solidement attaché au pouvoir et face à lui, l'une de ses dernières opposantes poursuit le combat entre la prison et l'hôpital. Habir Moussi a été en effet hospitalisé dimanche soir après 6 jours de grève de la faim. Cette avocate est emprisonnée depuis octobre 2023 et hier, elle comparaissait de nouveau devant un juge, Lilia Blaise.
À peine sortie de l'hôpital ce lundi, Habir Moussi s'est présentée devant le juge à une audience où elle était convoquée au tribunal de première instance de Tunis. Elle comparaissait suite à la plainte pour diffamation d'une association qu'elle avait accusée d'être une extension des mouvements islamistes en Tunisie. Pour cette avocate, fervente anti-islamiste et femme de poigne en politique, il s'agissait surtout avec cette audience d'envoyer un message, affirmer son respect pour l'État tunisien, selon ses mots, face à une justice qui s'acharne contre elle. Devant le juge, elle n'a pas voulu parler, selon le récit de ses avocats. Depuis des jours, elle refuse que ses avocats la représentent à ses audiences, ne croyant plus à un procès équitable. Présidente d'un parti politique qui rassemble encore de nombreux sympathisants dans la rue, Habir Moussi est connue en Tunisie pour son franc-parler en politique et son opposition fréquente aux islamistes lorsqu'elle était députée entre 2019 et 2021. Sa situation actuelle a suscité la réaction des associations féministes qui ont dénoncé lundi son transfert dans une autre prison pour femmes à 60 km de Tunis. Elles ont également exprimé leur solidarité. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
C'est un drame qui reflète un profond mal-être de certains jeunes Sénégalais. Il y a une semaine, un étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis s'est suicidé, provoquant une vive émotion dans tout le pays. Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, l'étudiant en master de sciences juridiques et politiques a notamment expliqué son geste par un sentiment d'isolement. Léa-Lisa Westerhoff.
Sur sa page Facebook, dans sa lettre posthume, Matardian évoque une maladie dont il ne cite pas le nom et explique son geste par un sentiment de solitude, de tristesse intense, mais aussi une absence d'écoute et des jugements intempestifs. Pour Fatou Fall, qui a créé SOS, une plateforme d'écoute sur Internet à destination des jeunes il y a 5 ans, le suicide de cet étudiant révèle la détresse de ceux atteints de dépression au Sénégal.
Il y a énormément de tabous, il y a un silence qui est très pesant, il y a un silence qui est même mortel parce que la société est très mal à l'aise face au mal-être, qui ne sait pas comment réagir, qu'on puisse se sentir légitime de souffrir d'une dépression par exemple et qu'on ne soit pas pris comme une personne qui ne croit pas en Dieu, qui n'est pas assez croyante.
Face à l'émotion suscitée par le suicide par pendaison du jeune Matardiagne, l'université Gaston Berger a organisé une réunion pour que ses étudiants puissent s'exprimer. Mais pour le psychologue Serine Mormbaye, il faut une réponse institutionnelle à un problème structurel.
Nous avons une population de 60% qui ont moins de 25 ans, qui font face à un climat d'incertitude, à de multiples crises. Je pense qu'il y a urgence à s'occuper de santé mentale. Ça veut dire que développer des programmes de prévention au plan institutionnel.
Mettre en place un bureau d'aide psychologique dans chaque université, mais pas seulement. Les étudiants dénoncent une pression trop forte de la société pour réussir, mais aussi aider financièrement leur famille. Léa-Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Des étudiants qui se sont justement mobilisés hier pour demander à l'État d'honorer ses promesses pour améliorer leurs conditions d'études, comme la réhabilitation des bâtiments endommagés lors des émeutes de juin 2023, la mise à disposition de bus et l'équipement des services médicaux de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Des pressions psychologiques, des abus de pouvoir ou encore du harcèlement sexuel, c'est à cela que ressemble la vie d'un travailleur ivoirien sur deux victimes de violences et de harcèlement sur le lieu de travail. Cette donnée est issue d'une étude récente de l'École nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée, l'ENSEA. Abdoulaziz Diallo a pu s'entretenir avec une victime et une structure qui met en place des solutions.
À la sortie de l'université, Mireille décroche son premier emploi dans une entreprise de la place. Mais sa joie sera de courte durée. L'un de ses supérieurs hiérarchiques jette son dévolu sur elle. Malgré son refus d'entrer dans son jeu, il insiste et la harcèle pendant plusieurs mois.
Il a eu à me faire des attouchements. Il a eu à tenir des propos déplacés vis-à-vis de ma personne, chose que je n'appréciais pas. Mais au vu du titre de la personne, j'avais du mal au départ à prendre une décision ferme par peur que cela ait des répercussions sur mon travail ou sur ma carrière.
Ne supportant plus la situation, Mireille finit par quitter son emploi. Comme elle, plus d'un travailleur sur deux en Côte d'Ivoire déclare avoir été victime de violences ou de harcèlement au travail. L'étude de l'ENSEA met en évidence des abus psychologiques mais aussi du harcèlement sexuel. Face à ce fléau, l'ONG Akwaba Mousso accompagne les entreprises pour tenter d'y mettre un terme. Maureen Grisot est la directrice exécutive.
Il s'agit de plusieurs procédures afin de mettre en confiance les victimes de harcèlement sexuel et de protéger les victimes ou les personnes à qui elles se confient. Il y a aussi une phase de sensibilisation du personnel pour expliquer ce qu'est le harcèlement sexuel, car beaucoup ne savent pas que certains de leurs actes font partie du prisme du harcèlement sexuel.
En Côte d'Ivoire, la loi prévoit une peine d'un à trois ans de prison et une amende de 360 000 à 1 million de francs CFA en cas de harcèlement en milieu professionnel. Abdelaziz Diallo, Abidjan, RFI.
Au Mali, une première victoire pour les enseignants-chercheurs. Les syndicats ont mis fin hier à 3 semaines de grève après avoir obtenu des avancées concernant notamment l'application de la prime de recherche, une somme encore jamais versée depuis sa création en 2017. Le gouvernement malien a mis en place conjointement avec les syndicats une commission de réflexion qui sera chargée de fixer le montant de cette prime et ses modalités de distribution. Et puis au Burkina Faso, la résurrection d'un bâtiment symbolique de la capitale, l'hôtel Azalaï Indépendance, a rouvert ses portes hier à Ouagadougou après une dizaine d'années de fermeture, annonce qui intervient à quelques jours de l'ouverture de la 29e édition du Festival panafricain du cinéma de la ville. En octobre 2014, la bâtisse avait été saccagée, pillée et incendiée durant l'insurrection populaire qui avait chassé du pouvoir l'ancien président Blaise Compaoré. Mouili Diallo.
En pleine insurrection populaire, les députés favorables à la modification de la Constitution s'étaient réfugiés dans l'hôtel Azalaï. Ils souhaitaient changer l'article 37 afin de permettre une nouvelle candidature de Blaise Compaoré après 27 ans au pouvoir. Tout un symbole pour le Premier ministre burkinabé, Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo.
Azalaï Hôtel Ouagadougou a été le témoin de moments historiques majeurs. Lors de l'insurrection populaire d'octobre 2014, il a subi des destructions importantes, perdant de son éclat et laissant une cicatrice au cœur de Ouagadougou. Au-delà de la pierre et du béton, Azalaï Hôtel Ouagadougou est un symbole de résilience et de renouveau. Il nous rappelle que, quelles que soient les épreuves, nous avons la capacité de rebondir, de reconstruire et d'aller de l'avant.
Symbole politique, mais aussi symbole culturel, l'hôtel Azalaï, c'est le quartier général des réalisateurs, producteurs de films et acteurs, puisque c'est là que séjournent les festivaliers invités au FESPACO. Mossadegh Bali est le PDG du groupe Azalaï Hôtel.
Je suis sûr que quand ils vont venir, ils ne vont pas reconnaître leur hôtel et ils seront très heureux de toutes les commodités qu'on a ici. Je pense que le festival de cette année sera un festival extraordinaire.
Après 8 ans de travaux, l'hôtel Indépendance, situé au cœur de la capitale, renaît de ses cendres pour la modique somme de 24 milliards de francs CFA.
Oui, Lydia Lo. Et je repasse la main tout de suite à Nemo Ampis pour la fin des RFI Matin.
Merci Paul Lonsin-Spinelli. Bonne journée à vous.